prudent si vous pratiquez des activités nautiques. Après le drame survenu à Yatté, les secours en mer rappellent les règles alors que les interventions se multiplient. Une figure emblématique de l'institution judiciaire calédonienne s'est éteinte. Maître John Lousier, avocat et ancien bâtonnier du barreau de Nouméa, est décédé hier. Réaction dans ce journal. Antoine Romain, invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence, c'était vendredi midi. Le nouveau maire de Païta a été interrogé sur ses priorités pour la commune. Cela m'est égal si un accord est conclu ou non avec l'Iran. La déclaration de Donald Trump au premier jour des pourparlers de paix entre Washington et Téhéran au Pakistan. Le sport, du cyclisme et cette performance incroyable de Paul Sexas sur le Tour du Pays Basque. Sur le territoire, on reviendra sur le premier tournoi de la saison de pelote basque. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Avant de développer tous ces titres, un nouveau drame ce week-end sur le territoire. La nuit dernière, un homme de 20 ans est décédé à la fois. Il a été poignardé lors d'une bagarre qui a éclaté vers 21h30 sur la plage de Wano. L'auteur présumé a été placé en garde à vue. Il est actuellement entendu par la gendarmerie. Un appel à la prudence à tous ceux qui souhaitent pratiquer des activités nautiques durant cette période de vacances scolaires. On rappelle qu'un homme de 44 ans et sa fille de 14 ans ont perdu la vie après s'être noyés dans la baie de Tuaourou, Mika Juneski.
Oui, une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances de ce drame survenu vendredi qui a coûté la vie à un militaire mécanicien à la base aérienne de la Tontouta et à sa fille. Ils étaient arrivés à Yatté pour un week-end en famille. C'est en pratiquant la nage avec palme masque tuba qu'ils ont perdu la vie en baie de Yatté. De manière générale, les sauveteurs en mer tiennent à faire passer un message d'autant plus important durant une période de vacances. Ceux qui souhaitent profiter du lagon sont invités à prendre leurs précautions, quelle que soit l'activité qu'ils ont l'intention de pratiquer. Martin Blanchard est le directeur adjoint du COSNC, le centre opérationnel de surveillance et de sauvetage.
C'est une période de vacances, donc beaucoup de monde vont se déplacer sur des lieux de vacances. Donc c'est des lieux qu'on n'a pas l'habitude. Donc c'est particulièrement important dans le cadre des activités en mer, que ce soit baignade, loisirs nautiques ou même plaisance, de bien préparer ces activités, de bien regarder la météo, de s'informer sur les particularités du lieu et également de savoir renoncer si il y a un des éléments qui ne correspond pas. Ça peut être l'expérience des gens les moins expérimentés du groupe. Ça peut être le fait qu'on n'a pas de moyens de communication en cas de problème. Donc il faut vraiment évaluer le danger de son activité. Toute pratique de loisirs nautiques est dangereuse. Il faut bien se renseigner sur le lieu, sur la situation et consulter le site Météo NC pour voir notamment la houle qui est un des facteurs les plus importants en termes de sécurité, que ce soit sur les navires ou les activités nautiques. Pendant les vacances, on observe une augmentation du nombre d'opérations. Donc l'important, c'est la prudence et la sécurité est l'affaire de tous.
Le COSNC a enregistré une multiplication des interventions depuis le début des vacances. En 2025, le centre opérationnel de surveillance et de sauvetage a mené pas moins de 357 interventions, dont 212 missions où des vies humaines étaient en danger dans le lagon calédonien.
Dans l'actualité également, la disparition de maître John Lousier. Il s'est éteint ce samedi 11 avril. Il avait été avocat et ancien bâtonnier du barreau de Nouméa, Michael.
John Lousier était devenu avocat à Paris en 1971, puis il avait exercé au Cameroun avant d'arriver sur le territoire en 1978. Il était devenu l'une des figures emblématiques de l'institution judiciaire calédonienne, élu notamment 5 fois bâtonnier du barreau de Nouméa. John Lousier avait été fait chevalier de la Légion d'honneur en 2014. Les hommages sont unanimes pour saluer aujourd'hui sa mémoire, comme par exemple Maître Philippe Reuter, également ancien bâtonnier du barreau de Nouméa, qu'il a longtemps côtoyé.
Nous sommes tous très très affectés, c'est une grande perte pour le barreau de Nouméa. Personnage exceptionnel, hommage exceptionnel, John, comme on l'appelait affectueusement, était quelqu'un qui incarnait la profession dans tout ce qu'elle avait de plus grand. C'est quelqu'un qui a beaucoup donné pour sa profession, il a présidé 4 fois au Destiné de l'Ordre, il a été 4 fois bâtonnier. Il a accompagné énormément d'avocats dans leur parcours professionnel, donc quelqu'un d'érudit, vraiment un excellent avocat. Et surtout, avec tout ceci, avec la plus grande humanité, simplicité, gentillesse, voilà. C'est pour ça que je vous dis que je le rends un hommage exceptionnel, parce que c'était quelqu'un qu'il était. J'ai accompli ma carrière pratiquement avec John Louvier tout le temps. Donc, dans les difficultés, c'était surtout quelqu'un qui était d'excellents conseils, posé, humain, gentil. Et je crois que tous les avocats le ressentent comme tel et avaient une profonde affection pour John.
Voilà pour cet hommage de Maître Philippe Retter à propos de John Louzier. Une veillée se tiendra au centre funéraire de Nouméa lundi à partir de 9h, suivie de sa crémation dans la plus stricte intimité familiale.
Le tout nouveau maire de Païta, Antoine Romain, était vendredi midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Moins de 3 semaines après son élection, Léo Fichou, il a été interrogé sur ses priorités et ses projets.
Oui, c'est le premier mandat électif d'Antoine Romain, mais il connaît bien la commune pour avoir été le directeur de cabinet des maires lors de la dernière mandature. Près de 2 ans après les violences insurrectionnelles de mai 2024, il met en avant la volonté de garantir la sécurité à Païta, et pas seulement, dit-il, par un renforcement de la police municipale.
Ça fait partie des priorités. Nous sommes d'ailleurs aujourd'hui en train de travailler sur cette augmentation d'effectifs pour à terme avoir une police municipale plus nombreuse, sans doute un petit peu mieux formée et qui pourra se déployer sur l'ensemble du territoire de la commune et tant que faire se peut dans des plages horaires qui seraient plus larges qu'aujourd'hui et notamment la nuit et en période de week-end. Donc ce travail, il est déjà commencé. Nous ne voyons pas, nous, à Païta, la question de la sécurité uniquement comme un renforcement de ses effectifs. Il est nécessaire, mais il n'est pas suffisant. Je pense par exemple à des notions liées à l'éclairage public qui concourent aussi au sentiment de sécurité. Je précise d'ailleurs à ce titre que nous avons pu hier relancer l'éclairage du rond-point de la Caricouillée, qui était, je veux dire, une promesse de campagne. Il faut savoir que ce rond-point, qui est l'entrée principale de la commune de Païta, était dans le noir depuis les émeutes et la crise insurrectionnelle de 2024. Depuis hier soir, ce rond-point, sur une décision du maire de la commune de Païta, a pu être rééclairé.
Un éclairage du rond-point qui date de jeudi soir et dont le maire souhaite qu'il soit un peu poussé. Il a par ailleurs demandé un audit de l'éclairage public de la commune pour l'améliorer et il souligne que la sécurité passe aussi par l'entretien et la sécurisation des voies routières et des abords routiers dont le nettoyage est lancé. Il veut aussi poursuivre le déploiement de la vidéoprotection. Il souhaite enfin que Païta conserve des effectifs significatifs de gendarmerie, notamment dans la perspective des provinciales. Il en a parlé jeudi avec le haut-commissaire qui était en visite dans sa commune.
Nous avons obtenu hier du haut-commissaire et de ses services des garanties sur le maintien de ses effectifs, au moins sur cette période-là, en souhaitant également un renforcement de ses effectifs au moment du vote, même si aujourd'hui on n'en connaît pas encore la date précise ni les modalités exactes. Mais nous avons obtenu effectivement de la part du haut-commissaire, de ses services, de la gendarmerie que j'ai également rencontré la semaine dernière, l'assurance du maintien de ses effectifs et, à notre demande aussi, la volonté qu'il y ait de la visibilité de ces agents de l'État, des gendarmes qui sont sur le terrain. La satisfaction de ma part, effectivement, puisqu'aujourd'hui, les patrouilles ont été renforcées, la présence sur le terrain est également renforcée.
Après la sécurité, la priorité, c'est la reconstruction des infrastructures détruites pendant les émeutes. Antoine Romain déplore que certains travaux n'aient pas encore commencé pour des raisons administratives, mais il relève que c'est l'État qui finance, notamment dans le cadre du pacte de refondation.
Pour ce qui est directement de la reconstruction, vont débuter là, dans les jours et dans les semaines qui viennent, la reconstruction de la partie de l'école Gustin qui avait été brûlée en 2024, qui est pris en charge à 100% par l'État, la reconstruction d'un tiers quasiment de la mairie de Païta, qui avait été également l'objet de destruction et d'un incendie criminel au moment des émeutes, celle qui hébergeait notamment la direction des services techniques, la direction d'urbanisme. Ces travaux vont débuter, alors pour une période de 16 à 18 mois, vont débuter là, dans les jours qui viennent. Nous avons également réussi à obtenir de l'État un financement sur un dossier un petit peu plus complexe de reconstruction du centre de première intervention des sapeurs-pompiers de Tontouta, dont les travaux vont aussi pouvoir reprendre avec une reconstruction à l'identique, puisque ce bâtiment était quasiment terminé, il était incendié avant même d'être livré au service de la commune. Et puis il y a également la place du village qu'on a réussi à intégrer dans ce pacte de reconstruction, puisque c'est le lieu même où se sont produits la plupart des exactions. L'éclairage fait aussi partie des éléments liés à la reconstruction.
Et en plus de la reconstruction, il y a aussi une partie refondation sur laquelle le maire de Païta est toujours en discussion avec l'État.
On démarre également certains projets cette année. Je pense notamment à des projets routiers. J'ai signé hier le lancement des travaux des routes de la tribu de Bangou et de Tamoua, la rue Fraissinet, que les gens du quartier connaissent bien, pour un montant qu'avoisine malgré tout quand même les 400 millions de francs qui sera pris intégralement en charge par les services de l'État. Ça fait ça aussi partie du travail qu'on a mené de longue date avec les services de l'État, mais sur lequel les travaux commencent uniquement aujourd'hui, enfin entre maintenant et le mois de juillet. Et puis, vous savez que ce pacte de refondation est en plusieurs volets. Nous travaillons d'ores et déjà avec les services de l'État pour le volet numéro 2 et le volet numéro 3, même s'ils ne sont pas encore tout à fait lancés, pour inscrire des projets, et notamment des projets qui faisaient partie du programme de Païta Jicroix lors des récentes élections municipales, pour un renforcement, je pense à la Maison des Associations, je pense notamment à des travaux nécessaires pour la perpétuation des activités sur l'arène du Sud, puisque là, des travaux lourds seront à mener. Nous sommes en discussion avec l'État, avec des accords de financement d'ores et déjà, pour commencer des travaux avant la fin de cette année 2026.
L'ambition d'Antoine Romain est effacé dès 2026 les stigmates matériels des émeutes dans la commune de Païta. Il salue d'ailleurs les initiatives prises dans ce domaine par le secteur privé. Le nouveau maire souhaite la poursuite du développement économique dans sa commune et il insiste sur les projets de développement qui existent sur la zone de Tontouta.
Avec un pôle d'excellence, la possibilité à terme d'y installer des entreprises, notamment de maintenance aéronautique. Donc forcément là, un appel d'air de structures qui n'existent pas aujourd'hui. Et puis un autre pôle très important sur Tontouta, qui est en plein développement, je dirais presque en plein boom, c'est la base aérienne Paul Klein. Vous savez que la base aérienne Paul Klein va bénéficier d'un peu plus de 2,5 milliards de travaux sur l'année 2026-2027, avec la construction de nouvelles structures pour accueillir les nouveaux hélicoptères de l'armée de l'air qui devraient arriver au mois de juillet, les Caracal. Le projet à échéance 2027 2028 de l'arrivée d'un Airbus A400M sur la zone pacifique dont la base arrière serait la base Paul Klein de Tontouta, avec là également de la maintenance. Et donc, ça entraîne d'ores et déjà de l'activité sur cette base aérienne, l'arrivée de nouveaux personnels pour pouvoir servir ces nouveaux appareils. Et ça joue aussi évidemment sur l'attractivité de la zone nord de la commune de Païta et spécifiquement sur celle de la Tontouta.
Dans l'actualité politique, le maire de Païta rappelle que les maires seront aux premières lignes dans l'organisation des élections provinciales, un scrutin pour lequel il appelle à l'union.
Notre liste, Païta Jicroix, a reçu le soutien du groupe Les Loyalistes. Mon positionnement est parfaitement aligné aujourd'hui avec ce groupe, avec Les Loyalistes, je dirais même élargi au rassemblement, puisque lors des dernières prises de parole et prises de position, ils étaient alignés. Je pense d'ailleurs que cet alignement devrait avoir pour conséquence pour les élections provinciales qui vont venir, un alignement également et une liste commune entre ces différents mouvements qui défendent les mêmes objectifs.
Une interview d'Antoine Romain retrouvée en podcast audio et vidéo, vous le savez, sur notre site internet, elle sera également rediffusée ce soir, juste après notre édition de 17h45.
Le trafic aérien à l'international, à présent problème technique sur un des appareils d'Air Calin. Les horaires du vol SB501 Paris-Bangkok-Nouméa sont reprogrammés pour un départ de Paris le lundi 13 avril. L'avion partira de Paris à 21h30 et arrivera à Nouméa à 6h30 le 15 avril. Les nouveaux horaires de vol ainsi que les itinéraires mis à jour ont été communiqués aux personnes concernées. La passion de la voile à l'occasion des portes ouvertes du Catamaran Club de Nouméa. L'association accueille aujourd'hui le grand public dans ses installations à la base nautique de la Côte Blanche. Au programme, des baptêmes et des initiations pour attirer les visiteurs à la pratique du catamaran et parfois susciter l'intérêt pour les activités nautiques.
Bah en fait c'était surtout pour un baptême avec un enfant, voilà. Puis c'était pour découvrir le club et puis voilà, parce que ici la voile c'est... Il y a un grand terrain de jeu, donc voilà.
Ce sera pas la première fois. Moi, j'ai déjà fait du bateau à une excursion avec ma mère. J'ai bien aimé, franchement. Du coup, voilà.
J'ai été obligé de revenir pour essayer les Hobbycat ici, complètement, avec le beau temps en plus.
Curiosité. Voilà, le catamaran, c'est la première fois.
On connaît 2-3 personnes au Cataclub, donc on avait envie de retenter, quoi. Ça change un petit peu. Ça donne envie, là, il fait très beau. Donc après, c'est compatible avec d'autres activités de voile, hein. Pour un petit peu se diversifier, c'est toujours chouette, quoi.
Je pratique déjà un peu le catamaran. Je fais en cours et en régate. Là, la journée porte ouverte, c'est fait pour donner envie aux gens d'en faire. Moi, c'est quand on est sur l'eau. J'adore être sur l'eau. Toutes les activités où il y a de l'eau dedans, j'aime bien.
Sylvie, je suis responsable administrative du Catamaran Club. Le catamaran, c'est comme une voiture, finalement. C'est la façon dont vous allez le conduire qui va créer le plaisir, soit de naviguer en toute tranquillité sur un lagon magnifique, ou de vouloir faire de la compétition et de travailler sur la vitesse. C'est vraiment vous, le capitaine. C'est vous qui décidez de ce que vous avez envie de faire sur l'eau. Le cata, c'est du 5 nœuds. Au 25 nœuds. C'est à vous de choisir.
Les portes ouvertes du Catamaran Club se poursuivent jusqu'à 16h cet après-midi. Une opération entièrement gratuite. Et toujours du côté des sorties, en bref, le Fijian Flying Circus s'est installé à Sainte-Marie pour proposer des spectacles d'acrobatie réalisés par une famille fidjienne. Des spectacles à voir jusqu'au 31 mai. Enfin, au chapitre religieux, une messe pour les malades sera célébrée à 14h30 cet après-midi à l'église d'Auteuil à Dumbéa. Midi passé de 15 minutes, première pause avant de passer à l'actualité en métropole et dans le monde. À tout de suite.
L'association Les Petits Pansements du Cœur mène campagne pour que les rêves des enfants malades chroniques hospitalisés se réalisent. Jusqu'au 16 mai, envoyez don au 36 77 233 francs le SMS. La somme sera intégralement reversée à l'association. En partenariat avec Atto SMS Média et l'OPT, objectif 14 000 SMS. Calédoniens du Nord, des îles et du Sud, ces enfants sont les vôtres, sont les nôtres. Nous sommes tous concernés. Faisons-les rêver.
Mazda, des véhicules à découvrir. Mazda, un monde d'élégance, de raffinement et de performance. Mazda Citadine, Mazda SUV et compact SUV, ainsi que le nouveau pick-up Mazda, des véhicules et des offres exceptionnelles sur toute la gamme. À visiter dès à présent en concession au showroom Mazda, situé 174 rue Auguste Bénébigue, Magenta. Mazda vous souhaite une bonne route.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Info Week-end avec l'actualité à l'étranger, on retrouve Léana Colombo.
C'est un rendez-vous diplomatique crucial qui a eu lieu pour la paix aujourd'hui au Moyen-Orient. Des pourparlers trilatéraux ont eu lieu la nuit dernière pour nous à Islamabad entre les États-Unis et l'Iran, aux côtés du Pakistan. Des échanges historiques et notamment ce face-à-face entre Washington et Téhéran. Retour sur ces négociations avec Wilfried de Villers pour Europe 1.
Ces échanges directs sont historiques. Depuis la révolution islamique de 1979 en Iran, jamais une rencontre à un tel niveau n'avait eu lieu entre Washington et Téhéran. Aujourd'hui, à Islamabad, donc, le vice-président américain J.D. Vance est accompagné de Steve Witkoff et de Jared Kushner, les négociateurs de la Maison-Blanche sur les dossiers internationaux. Face à eux, c'est l'influent président du Parlement iranien, Mohammad Khalibaf, qui représente Téhéran. Il faut, en quelques heures, aller au cœur des sujets sensibles. Ils sont nombreux, le nucléaire, le déblocage du détroit d'Ormuz, mais aussi la question des sanctions internationales qui pèsent contre l'Iran, les garanties de non-agression réclamées par le régime des Mollahs, sans oublier le Liban. Faut-il inclure le pays du Cèdre dans l'accord de cessez-le-feu alors qu'Israël y mène toujours sa guerre contre le Hezbollah?
Dans un même temps, du nouveau est annoncé pour le détroit d'Ormuz. L'armée américaine affirme que deux de ses navires ont franchi ce détroit afin de commencer à poser les conditions d'un déminage de ce lieu stratégique. Nous commençons maintenant le processus pour dégager le détroit d'Ormuz comme faveur pour des pays à travers le monde, a déclaré Donald Trump sur les réseaux sociaux. Le président américain qui a également annoncé aux médias que ça lui était égal si un accord avec l'Iran était conclu ou non. Donald Trump.
Nous allons voir ce qui se passe. Il y a des négociations très profondes avec l'Iran. De toute façon, quoi qu'il en soit, nous allons gagner. Nous avons gagné au niveau militaire et on parle des mines. Eh bien, ils ont des bateaux qui ont tous été coulés et qui dispersaient les mines. Il y a sans doute quelques mines dans l'eau quelque part, mais nous sommes en train de les chasser, ces mines. Et il y a de toute façon une négociation et peu importe si on a un accord ou pas, ça n'a aucune importance. Parce que de toute façon, nous avons gagné.
La réaction des gardiens de la Révolution ne s'est pas fait attendre. L'Iran va agir avec sévérité contre tous les navires militaires transitant par le détroit d'Ormuz. De son côté, Israël veut conclure un accord de paix avec le Liban qui tiendra pour des générations. C'est Benjamin Netanyahou qui l'affirme. L'État hébreu est attendu mardi à Washington à la table des négociations avec le Liban. D'ici là, Tsahal a poursuivi ses frappes dans le sud du pays. Les dernières frappes auraient fait au moins 18 morts. La désescalade annoncée se traduira-t-elle sur les prix du carburant si elle venait à se confirmer? Une baisse espérée par les particuliers comme les professionnels, à l'image des compagnies aériennes confrontées à l'envolée des cours du kérosène, multiplié par deux en quelques semaines et qui contraint les transporteurs à réagir. De quelle manière? Élément de réponse avec Arnaud Aimé, spécialiste transport au cabinet de conseil SIA.
Le kérosène, c'est le premier poste de coût des compagnies aériennes. Soit elles arrivent à répercuter cette augmentation du coût sur le prix des billets d'avion, c'est ce qu'elles ont commencé à faire pour la plupart, soit elles considèrent qu'elles doivent prendre sur leur marge, et si leur marge devient trop basse, voire négative pour certains vols, eh bien la conséquence, c'est tout simplement la décision de supprimer certaines lignes. Ça pourrait être amené à perdurer après le printemps jusqu'aux vacances d'été, si le prix du kérosène ne retourne pas à la normale. Il y a des chances qu'il ne retourne pas à la normale, parce que même si le cessez-le-feu, disons, perdure, eh bien, il y a quand même des contraintes aujourd'hui sur la production de kérosène. Donc, il y a quand même une probabilité assez forte que le prix du kérosène reste pendant un certain nombre de semaines, voire plusieurs mois, plus élevé que ce qu'il était avant le conflit en Iran.
Arnaud Aimé, consultant transport au sein du cabinet SIA. Il est midi, passé de 20 minutes, seconde pause, avant d'ouvrir notre page sport.
Samedi 18 avril, c'est l'Electro Race, l'événement sportif le plus festif de Nouméa. 5 km night run et 7 en live avec DJ Vision et DJ Lolo autour du centre culturel Jibao. Préparez vos baskets et vos tenues les plus folles. Ouverture des portes 18h, départ 19h. Inscription en ligne jusqu'au jeudi 16 sur le site inlife.nc avec l'opticien Dumbé Amol. Pour tout savoir, inlife.nc. L'Electro Race, ça n'est pas qu'une course, ce sera l'explosion nocturne de l'année. Un événement en fit énergie.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegale@rrb.nc ou au 25 46 46. RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Au cœur de l'actualité sportive, c'est la suite de votre journal. On retrouve Léa Nakonobo.
Et à la une du cyclisme et cette performance XXL de Paul Sexas sur le Tour du Pays Basque.
Oui, le jeune Français de 19 ans qui n'avait jamais remporté d'étape sur le World Tour avant la semaine dernière a réalisé le grand chelem sur le Tour du Pays Basque. Il a remporté les 4 maillots distinctifs, le maillot jaune du général. Il a remporté donc avec 2 minutes 30 d'avance sur Florian Lipovic, le deuxième au classement. Il a également remporté celui du meilleur sprinter, du meilleur grimpeur et du meilleur jeune. Une domination totale puisqu'il a aussi remporté 3 des 6 étapes. Paul Sexas devient le premier vainqueur français d'une course World Tour à étapes depuis 2007. Et c'était donc la victoire de Christophe Moreau sur le Critérium du Dauphiné.
Cyclisme toujours avec une course mythique ce soir, la 123e édition du Paris-Roubaix. 260 km au programme pour le peloton qui s'élancera à 18h45. Du rugby avec la très bonne entrée en matière du 15 de France féminin dans le tournoi des 6 nations.
Les Bleus ont écrasé l'Italie 40-7 et pointent donc en tête après la première journée. Égalité de points avec l'Angleterre, vainqueur de l'Irlande 33-12. L'Écosse a battu le Pays de Galles 24-19. La deuxième journée est prévue le week-end prochain. Le 15 de France ira affronter les Galloises. En rugby, toujours méché, les hommes cette fois, on retrouvera 2 clubs français en demi-finale de la Champions Cup. Cette nuit, Toulon s'est imposé 22-19 sur Glasgow et défiera donc le Leinster dans le dernier carré. Dans l'autre partie du tableau, Bass, tombeur des Saints de Northampton, attend de connaître son adversaire. Ce sera soit l'Union Bordeaux-Bègles, soit le Stade Toulousain. Duel 100% français qui se joue la nuit prochaine.
En métropole du football, avec la suite de la 29e journée de Ligue 1 ce matin, avec 2 rencontres au programme. Auxerre et Nantes ont fait match nul, 0 partout. Et Rennes s'est imposé 2-1 sur Angers. Pour rappel, hier, le Paris FC a largement dominé Monaco 4-1. Et Marseille a battu Metz 3-1. En tennis, la finale du Masters 1000 de Monte Carlo opposera ce soir à minuit les 2 meilleurs joueurs à l'ATP, Carlos Alcaraz et Yannick Sinner. Et du golf, avec la fin ce matin de la 3e journée du premier majeur de la saison, Léo.
Rory McIlroy garde la tête du Masters d'Augusta, mais le Nord-Irlandais est rejoint par l'Américain Cameron Yoon. Après 3 des 4 journées, les deux hommes sont à 11 coups en dessous du par. Sam Burns est 3e. Il pointe à un petit coup du duo tête, la 4e et dernière journée se jouera la nuit prochaine pour nous.
Les sports mécaniques avec le rallye de Croatie. Après 16 des 20 spéciales, c'est Thierry Neuville qui est en tête. Le Belge possède 1 minute 14 d'avance sur le Japonais Takamoto Katsuta et 1 minute 46 sur le Finlandais Sami Pajari. Le premier Français Johan Roussel est 5e à plus de 5 minutes du leader. Et puis en boxe, retour réussi pour Tyson Fury à 37 ans. Le Gypsy King, ancien champion du monde, s'est imposé à la décision unanime sur le Makhmoudov.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. À Boulou Paris, Saraméa, La Foix, Moindou, Farino, c'est le sang.
Le sport sur le territoire avec la Super League en football et en futsal, Léo.
En futsal d'abord, c'était la reprise de la saison hier. Trois rencontres se sont disputées à la salle Jacques Wawanabou de Lanzvata. La SPTT a dominé le FC Ferrand 8-4. L'UNC a battu l'AS Wetsch 6-3. Et enfin, Magenta et Zéolille ont fait match nul 5 partout en football. La quatrième journée de Super League continue aujourd'hui avec Horizon Passo SNJU à 13h au stade Noumadélé. Puis à 15h30, un choc entre Magenta et Gaïcha. Hier, Lossi a écrasé le Mont-d'Or 4-1. Cougnier est venu à bout de Yengen 2-1. Et Tiga a battu Saint-Louis 2-0.
Un mot de va et de kayak, puisque la coupe de vitesse s'est déroulée hier à Yaté. En va, c'est Albert Minguet qui s'est imposé chez les hommes et Marcy Manaté chez les dames. En kayak, victoire de Benjamin Legavre chez les hommes et Christine Bouquet chez les dames. Direction La Foix à présent. Challenge organisation proposée hier soir du côté de Pocreux, l'OSEF Full Moon Trail. Deux parcours au programme, plus de 400 participants et un barbecue partagé à l'arrivée. Une 11e édition appréciée par les participants comme Jeanne. Écoutez.
Une première pour moi, le trail de l'OSEF, c'est vraiment un super événement. Très très bien organisé, des sensations qui sont vraiment différentes, le fait de courir la nuit et puis on nous récompensait à la fin un super barbecue avec une ambiance très chaleureuse. On sentait vraiment que les gens étaient contents d'être présents et de partager ce moment tous ensemble.
Côté résultat, Julien Bernès s'est imposé sur le grand raid de 13,5 km. Victoire chez les dames de Jessica Gabory. Prochain événement proposé par Challenge Organisation, le raid du GR Nord à Ponérioin le 16 mai prochain. Les inscriptions sont ouvertes. À Nouméa, la section pelote basque Lagunekin organise ce week-end son premier tournoi de la saison.
Le tournoi Papy Chapelet au fronton basque, c'est le premier tournoi de la saison, vous le dites. Les parties de poule se sont jouées hier et ce dimanche, place au final. Une vingtaine de joueurs et joueuses est engagée. Chantal Larondo est la présidente de la section pelote basque Lagunekin.
On fait un clin d'œil à Robert Chapelet qui a été un ancien qui a beaucoup œuvré pour la section Lagunekin. Je pense que le site appelle beaucoup de monde. C'est un site avec ce beau fronton qui rappelle un petit peu en tout cas la culture du Pays Basque et voilà, du Sud-Ouest. On est une quarantaine de licenciés, on appelle vraiment les gens à venir découvrir. On n'est pas un club fermé uniquement aux gens du Pays Basque et du Sud-Ouest. Tout le monde peut venir essayer sans problème. Ben, Lagunekin, déjà, ça veut dire avec les amis. Donc l'idée, c'est de se retrouver entre copains, dans un esprit convivial, familial, autour de la culture qui nous est chère. Et voilà, on s'amuse bien, c'est un sport où on se défoule, c'est ludique rapidement, voilà.
Les finales viennent de se terminer il y a quelques minutes. Les résultats seront annoncés dans les prochaines éditions sur Radio Rythme Bleu, bien évidemment. Et si vous voulez essayer la pelote basque, des initiations sont proposées tous les premiers mercredis du mois au fronton basque.
On termine ce journal dans la région pour signaler en football la victoire 5-1 de Tahiti United sur le Solomon's King lors de la 12e journée de l'OFC Pro League. Germain Awegene a inscrit un triplé et a été élu homme du match. Joseph Attalé a également marqué un but. Et puis en padel, Christophe Soekarjan et Laurence Pesley sont en demi-finale de la Pacific International Padel Cup organisée à Tahiti. Les Calédoniens joueront à 15h heure de Nouméa contre la paire australienne. Il est midi 28, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi et on se retrouve à 13h pour le prochain point d'information.